rappelle que ça vieillit trop vite. Je sais pas si c'est le temps.
Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 2 septembre 2024, en direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Au Niger, au moins 15 personnes sont mortes suite à des pluies torrentielles. L'Algérie annonce son adhésion à la banque de développement du groupe de grands pays émergents, dont font partie la Chine et le Brésil. En Israël, la principale centrale syndicale décrète une grève générale pour ce lundi. Et dans notre partie magazine, au Cameroun, les inscriptions sur les listes électorales pour l'année 2024 sont désormais closes. De jeunes électeurs disent avoir soif du changement lors des prochains scrutins.
Si au moins 1 million de Camerounais qui décident de dire que bon, ce choix que j'ai eu à faire dans le passé, je pourrais le changer et je voudrais avoir telle personne qui pourrait aspirer à mes objectifs et pouvoir les réaliser.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Niger, au moins 15 personnes sont mortes suite à des pluies torrentielles qui se sont abattues vendredi dans la capitale économique Maradi. L'annonce a été faite dimanche par le gouverneur de la région. Les précisions avec Mouamadou Oumfa.
Nous avons enregistré 15 pertes en vies humaines. Nous avons également enregistré des blessés et des dégâts matériels très importants, a déclaré le gouverneur de Maradi, l'officier de police Issoufou Mahaman, à la télévision publique Télé Sahel. Vendredi à Maradi, 150 mm sont tombés en l'intervalle d'1h30, a précisé le correspondant local à la télévision. Les images diffusées montrent de forts courants provoquant des glissements de terrain et des effondrements d'habitations et emportant sur leur passage motos, voitures, commerces et arbres. Dans certaines zones, les eaux ont endommagé les réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité selon Télé Sahel. L'hôpital de référence de Maradi, un des plus importants du pays, a décidé dimanche de la gratuité des soins pour toutes les victimes des fortes pluies. Maradi est la région la plus affectée par les pluies qui s'abattent depuis juin sur le Niger. En moins de 3 mois dans tout le pays, les inondations liées à la saison des pluies ont fait 217 morts, 200 blessés et plus de 350 000 sinistrés, selon le dernier bilan officiel publié le 22 août par le gouvernement.
Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a accusé samedi son homologue israélien Benjamin Netanyahu de poursuivre la guerre à Gaza pour sa propre survie politique. Donc nous avons un premier ministre dont le pouvoir dépend de cette guerre, dont la survie politique dépend de cette guerre et qui est prêt à marcher sur des milliers de cadavres pour rester premier ministre et pour ne pas faire face à la justice de son pays, a déclaré M. Sonko au cours du rassemblement de quelques centaines de personnes en soutien aux Palestiniens à la grande mosquée de Dakar. Il faut rassembler tous ceux qui dénoncent cette injustice, travailler à une solution politique qui est une solution d'isolement de l'État d'Israël, une solution d'isolement politique, a-t-il ajouté. Le Parti démocratique du Botswana, BDP, au pouvoir a présenté dimanche son programme pour ce pays d'Afrique australe où doivent se dérouler des élections à l'automne. Les Botswanais éliront leur président et des autorités locales au cours de ce scrutin normalement prévu pour octobre, à l'occasion duquel l'actuel président Mokgweetsi Masisi, 63 ans, briguera un nouveau mandat. Il sera notamment opposé au chef de la coalition d'opposition UDC, Douma Boko, 54 ans. L'Algérie a annoncé son adhésion à la NBD, la nouvelle banque de développement des BRICS, selon un communiqué du ministère algérien des Finances. Il s'agit de la banque de développement du groupe de grands pays émergents, incluant la Chine et le Brésil. Claire Morin-Gibourg.
L'adhésion de l'Algérie à la banque a été approuvée samedi par le Conseil des gouverneurs de la NBD, présidé par l'ancienne chef d'État brésilienne Dilma Rousseff, lors de la 9e réunion annuelle de cette instance au Cap, en Afrique du Sud. Selon le communiqué, cette adhésion a été obtenue grâce à la solidité des indicateurs macroéconomiques du pays qui ont enregistré des performances remarquables ces dernières années et permis à l'Algérie d'être classée comme économie émergente de tranche supérieure. L'adhésion à la NDB va, selon le ministère des Finances, offrir au pays de nouvelles perspectives pour soutenir et renforcer son essor économique à moyen et long terme. En adhérant à cette importante institution de développement, l'Algérie franchit une étape majeure dans son processus d'intégration au système financier mondial, a souligné le ministère algérien. Créée en 2015 par le groupe des BRICS, la NDB est une banque multilatérale de développement conçue comme une alternative au FMI et à la Banque mondiale. Sa mission principale est de mobiliser des ressources pour financer des projets dans les marchés émergents et les pays en développement.
Toujours en Algérie, le juge d'instruction près de le tribunal de Tlemcen a ordonné dimanche le placement en détention provisoire de 7 individus, dont 4 Marocains, suite au démantèlement dernièrement d'un réseau d'espionnage et de renseignement en vue de porter atteinte à la sûreté de l'État, a annoncé le parquet de cette ville frontalière du Maroc, citée par l'agence de presse gouvernementale APS. Une enquête judiciaire a été ouverte contre ces personnes. Ce réseau a recruté des ressortissants marocains et algériens dans le but de porter atteinte à des institutions sécuritaires et administratives algériennes, a indiqué le parquet. Un car en provenance du Zimbabwe s'est retourné dans la province de Limpopo, dans le nord-est de l'Afrique du Sud, faisant 5 morts, ont annoncé dimanche les autorités locales, après une semaine meurtrière ayant fait des dizaines de morts sur la route. La fatigue pourrait avoir été une cause de cet accident, selon les autorités, qui ajoutent que de nombreux passagers ont été blessés à des degrés divers et ont été hospitalisés. Plus tôt de cette semaine, un autre car en provenance du Zimbabwe s'était déjà renversé dans la province de Limpopo, faisant 10 morts et 35 blessés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a affirmé dimanche avoir déjoué des attaques massives de drones ukrainiens. Ces attaques ont visé 14 régions russes et la capitale Moscou, selon le ministère russe de la Défense. Michel Joseph.
Selon le ministère russe de la Défense, 158 drones ont été envoyés et la plupart d'entre eux ont été abattus au-dessus des régions de Koursk, Bryansk, Voronezh et Belgorod, proches de l'Ukraine. Selon le maire de Moscou, Sergei Sobyanin, 10 drones ont visé différents quartiers de la capitale. Ce raid de drones est intervenu quelques jours après que les infrastructures énergétiques de l'Ukraine ont été la cible de plus de 200 drones et missiles russes dans le cadre de l'une des plus importantes attaques de ce type depuis le début de l'offensive russe il y a plus de 2 ans et demi. Il est tout à fait justifié que les Ukrainiens répondent à la terreur russe par tous les moyens nécessaires pour y mettre fin, a martelé dimanche le président Volodymyr Zelensky sur Facebook. L'Ukraine explique régulièrement que ses tentatives de frappe sur le sol russe contre des cibles militaires ou des sites et dans les forces russes ont pour but de dérégler la logistique de ces dernières en représailles aux attaques quotidiennes que les villes et la population ukrainienne subissent depuis février 2022.
Le dénouement semble approcher dans la quête d'un Premier ministre en France. Près de 2 mois après les législatives, le président Emmanuel Macron reçoit lundi 2 personnalités citées avec instance pour le poste ainsi que les ex-chefs d'État François Hollande et Nicolas Sarkozy. Objectif de ces consultations qui s'accélèrent, trouver un chef de gouvernement qui ne soit pas aussitôt censuré par une majorité de députés, alors que les élections ont conduit à une Assemblée nationale sans majorité. Jeudi, M. Macron a affirmé mener tous les efforts dans sa recherche d'un nouveau Premier ministre pour aboutir à une meilleure solution pour le pays. En Israël, la principale centrale syndicale a décrété une grève générale pour ce lundi afin de forcer le gouvernement à conclure un accord pour libérer les otages retenus à Gaza. Cette grève survient après la découverte par l'armée israélienne des corps de 6 otages morts dans un tunnel du territoire palestinien. Gabi Dorsil.
Nous devons faire cesser cet abandon des otages. Toute l'économie israélienne sera en grève générale, a déclaré dimanche le chef de la centrale syndicale Arnon Bar-David lors d'une conférence de presse. Le chef de l'opposition israélienne, Yair Lapid, ainsi que les familles d'otages ont également appelé à cette grève. Cette décision intervient après l'annonce dimanche par l'armée israélienne de la découverte des corps de 6 otages dans la bande de Gaza. Les corps des otages ont été retrouvés samedi dans un tunnel dans la zone de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, a indiqué l'armée, suscitant stupeur et colère en Israël. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, sous pression croissante en Israël pour conclure un accord sur les otages après des mois de blocage, a menacé le Hamas de lui régler son compte. Celui qui tue des otages ne veut pas d'un accord sur un cessez-le-feu et la libération des otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens, a-t-il martelé.
Le chef du parti chrétien des forces libanaises a accusé dimanche le Hezbollah pro-iranien d'avoir entraîné le pays dans une guerre contre Israël pour soutenir le Hamas palestinien à Gaza, sans en référer aux Libanais. Dans un discours virulent contre la formation islamiste libanaise, M. Samir Gaga, chef du principal bloc parlementaire chrétien, a accusé le Hezbollah de confisquer la décision des Libanais concernant la guerre et la paix, comme s'il n'y avait pas d'État. C'est une guerre que les Libanais rejettent, mais qui leur a été imposée, a-t-il affirmé. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, la Minute Éco avec Alexandrine Bologno.
La National Oil Corporation de Libye a déclaré vendredi que les récentes fermetures de champs pétroliers ont entraîné la perte d'environ 63% de la production totale de pétrole du pays, alors que le conflit entre les factions rivales de l'Est et de l'Ouest se poursuit. La crise autour du contrôle de la Banque centrale de Libye menace de provoquer une nouvelle flambée d'instabilité dans ce grand producteur de pétrole. L'industrie minière sud-africaine du platine est entrée dans une phase de déclin irréversible alors que les producteurs luttent contre la faiblesse des prix et que la demande souffre de l'essor des véhicules électriques à batterie, selon le directeur général de Northam Platinum. Le prix du métal blanc a chuté de 13% depuis le début de l'année dernière pour atteindre 939 dollars l'once. Les États-Unis imposent des restrictions de visa aux membres du gouvernement sud-soudanais et à d'autres personnes qui ont entravé l'aide humanitaire au pays en taxant les cargaisons, selon le département d'État américain. Les autorités sud-soudanaises bloquaient les camions-citernes des Nations Unies en raison d'un différend fiscal, ce qui compromettait la livraison de millions de dollars d'aide en période de crise humanitaire, selon les missions de l'ONU sur place.
Place maintenant au sport avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Ozina et bonjour à tous.
On ouvre avec les Jeux paralympiques, Élisée. Un dimanche en or pour l'Afrique.
Oui, trois médailles d'or. D'abord, le lancer du poids F53 hommes remporté par le Marocain Abdelila Ghani. Puis, en athlétisme, le Sud-Africain Mlongo Mpumelelo qui s'impose sur le 100 mètres T44 en 11 secondes 12 centièmes. Et l'Algérien Jamil Atmani en T13 avec un chrono de 10 secondes 42. L'Algérie a remporté une autre médaille hier grâce à Linda Amri. Elle s'offre le bronze à l'issue de la finale du saut en longueur T12. Même médaille pour Guillaume Junior Atangana, issu de l'équipe olympique des réfugiés, qui finit troisième de la course des 400 mètres T11.
Le tournoi paralympique de Cécifoot a commencé hier dimanche.
Avec la participation de 8 équipes réparties dans 2 groupes de 4. Et le Maroc, seul pays africain en lice, a débuté avec un nul blanc devant l'Argentine. Pour son deuxième match prévu ce lundi, le Royaume chérifien fera face au Japon. Autre match au programme aujourd'hui, Colombie, Argentine, Turquie, Chine et puis France-Brésil.
On évoque à présent le reste de l'actualité sportive, le football avec les qualifiés pour la prochaine Ligue des champions féminines de la CAF.
Et les Marocaines de l'ASFA ont décroché le seul ticket de la zone UNAF pour la 4e année de suite après avoir battu 1-0 les Égyptiennes de Toutankhamon. Les filles militaires de Rabat sacrées en 2022 rejoignent ainsi les Sénégalaises des Aigles de la Médina, les Nigérianes d'Edo Queens, les Congolaises du TP Mazembe, puis les Éthiopiennes du Commercial Bank ainsi que les Sud-Africaines de l'Université du Cap Occidental. Reste à désigner le pays qui va abriter cette 4e phase finale et ce sera le 10 octobre prochain à Kinshasa.
Football toujours, dernier week-end en club avant la trêve internationale et l'Olympique de Marseille se rassure.
Avec une victoire de 3-1 à Toulouse, le club du Marocain Amin Harit, non convoqué en sélection nationale pour les prochains matchs, a pris la deuxième place au classement avec 7 points, juste derrière le PSG qui a fait le carton plein après son succès 3-1 à Lille. 9 points en 3 journées également en Angleterre pour Manchester City et Liverpool, tout comme le FC Barcelone qui est en train de faire un bon début de saison en Espagne.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Munezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Cameroun, les inscriptions sur les listes électorales pour l'année 2024 sont désormais closes. Pour cette dernière ligne, de longues files d'attente de Camerounais venus se faire inscrire ont été aperçues dans la capitale Yaoundé. Parmi eux, pour la plupart des jeunes, mais aussi de nombreuses femmes qui disent avoir soif du changement lors des prochains scrutins, notamment à l'issue de l'élection présidentielle prévue l'an prochain. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Juntap.
Jean Roger, un handicapé visuel, sort des locaux de l'antenne d'élection Cameroun de Biyamassi, dans le 6e arrondissement de Yaoundé. Il tient dans ses mains un récépissé qui atteste son enrôlement pour la première fois sur les listes électorales.
Je suis arrivé ici autour de 7h00. Nous tous sommes le changement. C'était important pour moi d'avoir un cadre électeur pour venir voter parce que quand on veut un changement ou bien quand on veut l'origine actuelle, on doit s'exprimer. Donc.
À l'instar de ce jeune Camerounais, des milliers d'autres ayant atteint 20 ans, l'âge de la majorité, ont pris d'assaut les points d'inscription. Chamberlain Kemfak était l'étudiant.
On veut du changement sérieux. On sait qu'un vote massif peut changer les choses. Ce qui s'est passé au Sénégal, le vote massif a eu à changer certaines choses. On suppose aussi que si au moins 1 million de Camerounais qui décident de dire que bon, ce choix que j'ai eu à faire dans le passé, je pourrais le changer. Et je voudrais avoir une telle personne qui pourrait aspirer à mes objectifs et pouvoir les réaliser.
Forte présence de la gente féminine également dans les longues files d'attente à Yaoundé. Sous anonymat, une jeune employée du secteur privé explique sa motivation.
Avant que je ne naisse, on avait le régime en place. Et bien après, aujourd'hui, j'ai de grands enfants. On veut voir autre chose, tout simplement. Vous êtes témoin avec nous de toute cette ruée vers l'extérieur. C'est un grand signe que tu ne vas pas bien. Le Cameroun est l'un des pays les plus chers, où la vie est la plus difficile.
En mars dernier, le Cameroun a franchi la barre de 7,5 millions d'inscrits sur les listes électorales pour une population estimée à plus de 29 millions d'habitants. Certaines formations politiques, comme le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, ont sensibilisé les citoyens éligibles à se faire enrôler. Alain Gachou, membre du bureau régional du MRC Centre 1.
Je suis très satisfait de ce résultat parce que hier, nous allions dans les maisons, nous faisions du porte à porte pour que les Camerounais puissent s'inscrire. Mais aujourd'hui, une fois qu'il y a un signal, une fois que les Camerounais sont au courant de l'existence, de la présence de l'ECAM à un point, ils se précipitent eux-mêmes.
Au dernier jour des inscriptions sur les listes électorales, l'antenne communale d'élections Cameroun de Yaoundé 6 a enregistré une tendance à la hausse des nouveaux inscrits. Oscar Balep est sommet, chef d'antenne et l'ECAM.
Si nous sommes au niveau de l'antenne communale de Yaoundé 6 à un peu plus de 18 000 inscrits pour l'année 2024, les chiffres non encore toilettés. Et nous avons également une bonne tendance à la hausse aussi des personnes qui sollicitent les transferts pour Yaoundé 6.
Des 4 scrutins prévus en 2025 au Cameroun, 3 ont été reportés. Seule l'élection présidentielle a été maintenue en octobre 2025. Emmanuel Juntap pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Fini les vacances, c'est jour de rentrée scolaire ce lundi 2 septembre pour les élèves gabonais. Une reprise des cours à pas forcés pour de nombreuses familles qui n'ont pas encore apprêté les fournitures scolaires de leurs enfants. Le reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangdé.
Dans les supermarchés de Libreville, les retardataires se bousculent jusqu'à la dernière minute. Entre inflation et baisse du pouvoir d'achat, ce n'est pas une mince affaire pour tous les ménages. Aude est parent d'élèves.
Ah, ça coupe le souffle. vraiment ça coupe le souffle parce que là déjà j'ai un enfant qui va en troisième année et si déjà rien que les livres de troisième année me prennent 30 000 francs et les salaires qui ne suivent pas, la bourse est vraiment minime par rapport au prix qu'on trouve sur le marché, c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. Je suis stressée, j'ai l'impression que je vais me tomber malade parce que si j'ai un budget, par exemple, de 80 000 francs uniquement pour les fournitures, et quand j'arrive sur le marché, je trouve que les prix sont élevés, je me demande comment je vais faire pour m'en sortir, en fait.
Alors que les cours démarrent aujourd'hui, la liste des manuels scolaires exigés aux élèves n'est toujours pas disponible. Difficile pour certains parents, comme François, de s'organiser en amont.
On aurait bien souhaité que ces listes, ces fournitures-là, nous soient données à la fermeture des classes pour que tout le long des grandes vacances, nous puissions s'en tenir à ça.
La pression financière de la rentrée scolaire est diversement vécue par les familles. L'air un peu perdu entre les rayons de ce magasin du centre-ville de la capitale. Pamela, mère de famille, boucle à peine sa liste.
J'ai pris des grands formats, j'ai pris des règles et des cœurs et des bics. Et bon, le prix, bon, ça m'a valu à 50 000. Hein.
Le jeu de piste de la rentrée consiste aussi à trouver des livres qui correspondent au niveau scolaire de l'enfant. Justine sort bredouille d'une visite au marché des livres.
Tout maintenant, ça s'achète. Avant, c'est vrai. Il y avait des livres où on les utilisait à l'école, après utilisés, on les remettait. Ça restait à la bibliothèque. Mais de nos jours, on se rend compte que les bibliothèques aussi, apparemment, ça envoie des disparitions dans les établissements. C'est difficile de satisfaire tout le monde. On est obligé d'aller étape par étape. D'abord, la priorité, c'est les inscriptions. Et puis prendre d'abord les essentiels, surtout les livres. Maintenant, les petits trucs, les règles, les fournitures, des cahiers. En tout cas, au fur et à mesure, chaque fin de mois, par exemple, là, nous ne sommes pas encore à la fin du mois, on prend d'abord l'essentiel.
Dans ce remue-ménage des premiers jours de classe au Gabon, il y a la liste des besoins, celle des envies et au milieu, le porte-monnaie des familles. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
Au Bénin, les sacrifices et crimes humains sont de plus en plus récurrents. Le drame est qu'ils sont pour la plupart du temps dits rituels, donc liés à la pratique du vaudoune et du fa. Un camouflet pour le Bénin qui, depuis janvier dernier, a décidé de créer autour du vaudoune un véritable attrait touristique à travers les Vaudoune Days. Les précisions avec notre correspondant à Cotonou, Ginette Fleur, à Dondé.
Au début du mois de juin 2024, la découverte macabre du corps d'un garçon de 11 ans dans la maison d'un féticheur crée l'émoi, la consternation dans tout le Bénin. Un crime de plus contre un enfant dont les parents continuent de se poser des questions. Pour Honora Atindila, on est en plein dans l'horreur.
Ça commence par faire peur, parce qu'au début, c'était quelques-uns dans la ville. Mais actuellement, c'est comme une chose qui est à la mode. Et chaque fois, on entend qu'ils ont tué telle personne, ils ont recueilli son sang pour des rituels. Après mes enquêtes, j'ai constaté que c'est des jeunes en quête d'argent facile et ceux qui ne veulent rien faire pour trouver de l'argent, qui sont en train de faire ces mauvaises pratiques-là.
Devant la fréquence des crimes crapuleux, les religions endogènes ont été pointées du doigt. Les vieilles rengaines qui fondèlent le reste spectacle de tout ce qui est diabolique sont revenus au devant de la scène. Les dignitaires sont montés au créneau pour distiller la ville honneur du vaudou.
Nous condamnons avec rigueur ces crimes crapuleux et nous saluons la promptitude de la réaction du président de la République pour les mesures prises afin de réprimer et éradiquer ces actes criminels en notre pays. Nous invitons tout le corps social, la cellule familiale à reprendre en main l'éducation des valeurs de la vie en société pour bâtir une société où l'argent est gagné par le travail.
Cependant, pour des gens comme ce dignitaire qui a requis l'anonymat, il est vrai que certains de ceux qui sont tombés dans les religions endogènes, comme Pamagi, sont au cœur des crimes rituels.
Le terreau de l'ignorance, il n'y a rien de pire que ça. Cela illustre la grandeur de l'ignorance que les gens
de la tradition noble du vaudou. Comment se fait-il qu'on dit on vend des jeunes filles et à des prix quand vous entendez ça et par rapport à l'âge de ces jeunes filles, les dépenses qui ont été faites sur ces jeunes filles jusqu'à l'âge-là, vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Nous demandons au gouvernement de ne pas hésiter à sortir des lois pour punir tous ceux qui sont en train de salir notre nation. Voilà.
Un autre se désole de la situation et précise que ceux qui se livrent à de telles bassesses s'exposent à la colère du vaudou qu'ils traînent dans la boue.
Ils se tuent progressivement et ils se détruisent pour plusieurs incarnations. Lorsque vous êtes un vaudou, non, le vaudou vous recommande même d'avoir beaucoup d'enfants. Parce que vaudou adore rester avec le monde. Vaudou, c'est l'unité. Vaudou, c'est l'amour. Vaudou, c'est le respect des principes et lois universelles. On ne peut jamais tuer l'homme pour n'importe quelle cause, c'est-à-dire pour des cérémoniales, non. Ça, c'est, du point de vue scientifique, ça n'a pas de sens. Du point de vue métaphysique, ça n'a pas de sens.
Devant le tollé général, le président du comité des rites vaudou a exprimé son indignation et regrette l'amalgame que distillent certaines personnes, pourtant capables de reconnaître la différence fondamentale qui existe entre les pratiques ésotérico-magiques, immorales, maléfiques, diaboliques et les pratiques rituelles du vaudou ou du fa. Mais pour beaucoup, il faut aller au-delà des menaces et punir sévèrement cette banalisation de la vie humaine. De Cotonou, Ginette Fleur Dandé pour VOA Afrique.
Au Sénégal, les jeunes s'intéressent de plus en plus à l'agriculture. Une dynamique qui accompagne l'objectif que se sont fixés les autorités de faire du développement agricole un enjeu économique majeur. Notre correspondant Warani Johnson Sambou est allé à la rencontre de jeunes, notamment diplômés, qui ont décidé d'investir dans l'agriculture. Reportage.
Lorsque j'ai démarré mes activités, les jeunes se moquaient de moi. Pour eux, le gars est parti faire ses études, il a cartouché.
Cartouché, un terme utilisé pour parler d'échec à l'université. Un mot qui colle parfaitement à la perception que beaucoup ont toujours eue des étudiants qui décident de retourner à l'agriculture. Et Moustapha Diatta est devenu un symbole de la révolution qui s'opère depuis quelques années. Cet ancien étudiant en sciences économiques a préféré la terre au confort d'un bureau.
À un certain moment, j'ai constaté que la plupart des jeunes de ma localité, au lendemain de leur formation, vont vers les grandes villes à la recherche d'un lendemain meilleur, ou bien s'attellent à aller vers l'immigration clandestine en se faisant noyer en pleine mer. Et moi, mon objectif, c'est de montrer aux jeunes vraiment que c'est possible de rester et réussir au bercail.
Aujourd'hui, Moustapha Diatta est devenu à 39 ans une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes en raison du succès de son entreprise. Et celui qui incarne le plus son image, c'est Elhadji Agnias. Ce jeune diplômé en sciences économiques a décidé de se lancer dans l'agriculture après avoir été victime d'une arnaque dans une tentative d'émigration clandestine.
J'avais un fonds à peu près 3 millions et j'avais tenté d'émigrer, mais malheureusement, j'ai été arnaqué. Si je le savais avant, je ne voulais pas tenter pour aller. Parce que je sais qu'avec mes 3 millions-là, si j'avais commencé d'investir dans l'agriculture, je pourrais aller très 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 loin dans 5 ans ou 6 ans. Là où je ne peux même pas aller si j'étais immigré aux États-Unis. Ça, moi, je le sais parce que j'ai appris beaucoup de choses ici. Beaucoup de choses même.
Le retour vers l'agriculture prôné par les autorités séduit de plus en plus. Et il n'y a pas que les hommes qui sont attirés. Car au Sénégal, l'agriculture se féminise aussi. Rokiatou Diao, la vingtaine, rêve de devenir entrepreneur agricole.
Je suis une fille qui rêve de créer mon propre entreprise. Je veux être indépendante. Donc là, je me bats.
Pourquoi l'agriculture?
L'agriculture, parce que les jeunes de nos jours, ils pensent que travailler dans les bureaux, dans les entreprises, de devenir des secrétaires ou des assistantes, c'est le plus important. Moi, je veux montrer le contraire, entreprendre par moi-même, de prendre des employés pour qu'ils travaillent pour moi et devenir quelqu'un dans l'avenir.
À l'heure où le Sénégal fait du développement agricole une priorité nationale, l'implication des jeunes semble vitale pour réussir le challenge. Wahani Johnson Sambou Dakar pour VOA Afrique.
Dan de Fulbe, votre nouvelle émission tous les vendredis sur VOA Fufulde. Dan de Fulbe braque ses projecteurs sur les jeunes, leurs ambitions, leurs projets, leurs défis. Dan de Fulbe, c'est aussi la vie de la communauté Peul, sa culture, son identité, sa résilience et son avenir dans un monde qui change. Restez connectés et découvrez toutes les facettes de cette vaste communauté riche par sa diversité. Dan de Fulbe, en FM, ondes courtes, et sur la fréquence 17 630 kHz sur nos réseaux sociaux et à travers nos stations partenaires en Afrique. Dans Rendez-vous B, c'est à partir du vendredi 30 août 2024, de 16h30 à 17h temps universel, sur VOA Full Full Day.
Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Monezero à son micro, à la mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.